Amérique, qui est devenu aujourd'hui VOA Afrique. Nous avons à Nairobi le docteur Tidiane Ouattara, expert en sciences spatiales et coordinateur du programme GMS à l'Union africaine. Et également au Cap, en Afrique du Sud, le docteur Marie Korsaga, qui est la première astrophysicienne d'Afrique de l'Ouest et du Burkina Faso également. Merci à tous d'être avec nous pour ce débat. Alors, je commence avec vous, monsieur Porcella. Vous étiez là durant ces moments historiques et en tant que jeune journaliste, qu'est-ce que cela vous fait aujourd'hui ?
Écoutez, je me considère comme très privilégié d'avoir pu vivre cette aventure extraordinaire. On me demande souvent quel est le moment qui vous a le plus marqué. Il est évident que tout au long de cette mission, qui a duré une semaine tout de même, il y a eu de grands moments. Il y a eu le lancement tout d'abord. Mais évidemment, ce dont on parle le plus et ce qui m'a peut-être le plus marqué, c'est le moment où finalement... l'homme a pu réaliser ce vieux rêve qui n'existait que dans les livres de Jules Verne, de H.G. Wells ou d'Asimov, marcher sur la Lune, et aussi du dessinateur belge Hergé avec Tintin. C'est le moment où Neil Armstrong a posé sur le pied sur la Lune et où il a prononcé sa petite phrase historique C'est un petit pas pour un homme, un bond géant pour l'humanité. Et alors, le souvenir que je conserve de cet épisode, c'est la réaction des journalistes qui sont...
Vous étiez sur place.
J'étais sur place, j'étais au centre de contrôle de Houston, et nous étions dans une immense salle de presse. Il y avait à peu près un millier de journalistes venus de tous les coins du monde. Et bon, par profession, on est tenu à une certaine neutralité, à ne pas manifester ses sentiments. Mais lorsque Armstrong a finalement marché sur la Lune, il y a eu une extraordinaire explosion de joie, d'enthousiasme. Les journalistes se sont levés, ont applaudi, se serré la main. Et on a eu l'impression pendant un bref instant que les frontières nationales avaient disparu, que ce qui nous sépare normalement, nos idéologies différentes, avaient disparu et que nous faisions tous partie de la famille humaine. D'accord. Et nous avons donc renoncé à notre objectivité, si je puis dire, ou à participer à cette joie collective.
Je vois mon réalisateur qui a mis une photo de vous quand vous étiez sur place, justement. Est-ce que vous pouvez me parler un peu rapidement de cette photo?
Eh bien, oui, je ne peux pas la voir là sur l'écran. Ah oui, voilà. J'avais 31 ans à l'époque et c'était mon premier grand reportage, véritablement, pour la Voix de l'Amérique. Et là, vous me voyez en train de décrire la fusée Saturne V, qui avait une puissance extraordinaire. Quand elle a décollé au milieu d'un nuage de flammes, de fumée, le sol a tremblé. Et je me souviens, je ressens encore, 50 ans plus tard, les vibrations du sol. Et la fusée s'est finalement envolée vers l'espace en emmenant l'équipage. Et tout le monde criait, il y avait tous les invités criaient « Go, baby, go !»
Alors, cette mission était le fruit de plusieurs autres qui l'ont précédée. Mais à partir de ce moment, est-ce qu'on peut dire que les États-Unis avaient gagné cette course vers l'espace face à son rival, l'ex-Union soviétique?
Oui, et c'est d'ailleurs comme ça que le programme a démarré. Vous savez, le président Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, avait lancé ce défi à la NASA et aux États-Unis et aux ingénieurs et aux experts de l'espace. Il faut que nous puissions, à la fin de la décennie, et il s'adressait alors aux Américains, je crois en 1962, il faut que nous arrivions à faire marcher un homme sur la Lune et à le ramener sain et sauf. Et alors évidemment, quand il a prononcé ça, il ne faut pas oublier que les Soviétiques avaient... doubler les Américains puisqu'ils avaient réussi à envoyer déjà eux-mêmes un engin dans l'espace. Donc il fallait absolument réparer cette sorte d'humiliation, cet affront. Et c'est comme ça que le programme a démarré. Et il y a un livre qui vient de sortir qui dit qu'après quelques années, Kennedy s'est désintéressé du programme. Mais enfin, il a tout de même continué.
Des raisons financières ?
Non, mais il y avait d'autres problèmes. Donc, il s'est rendu compte que ça coûtait tout de même très cher. Mmh. Et le directeur de la NASA, à l'époque, lui avait demandé un budget plus grand. Et il avait dit, mais votre espace, j'en ai rien à faire.
D'accord. Alors, docteur Tidiane Ouattara, en dehors du prestige et du duel entre les deux superpuissances de l'époque, il y avait quand même un intérêt scientifique dans cette mission sur la Lune. En 1969, quels étaient les enjeux scientifiques justement pour l'espace ?
Merci beaucoup. Tout à fait. Les enjeux scientifiques étaient nombreux. D'abord, il fallait pouvoir arriver sur la Lune. Donc, au niveau de la propulsion, il fallait développer de nouvelles méthodes. Il fallait développer aussi des matériaux qui pouvaient résister. Il fallait aussi découvrir sur la Lune de quoi il s'agit. Il y a eu des prises d'échantillons quand même pour être analysées. Donc les enjeux étaient multiples au niveau scientifique, mais nous allons les voir beaucoup plus tard. Parce que grâce à cette réussite, il y a des progrès qui ont été réalisés, qui ont permis d'autres développements dans les quatre segments de l'espace. L'observation de la Terre, la télécommunication par satellite, le positionnement et la navigation, et puis l'astronomie et les sciences spatiales. Nous pourrons aller dans les détails si nécessaire.
D'accord. Docteur Marie Corsaga, vous êtes très jeune, donc vous n'avez pas vécu en tout cas Apollo 11, mais vous avez dit que les matières invisibles de l'espace vous ont toujours fasciné. Qu'est-ce qui a été déterminant dans le choix de votre carrière en tant qu'astrophysicienne?
J'ai suivi mes premiers cours d'astrophysique quand j'étais en licence. Et j'ai été fascinée par ce que j'avais appris pendant le cours parce que j'ai compris que notre connaissance de l'univers était encore jeune et évoluait avec le temps et que l'univers regorgeait aussi une quantité de matière invisible, à savoir la matière noire et l'énergie noire, donc qui reste encore à être élucidée. Et tout cela, ça m'a motivée à dire, je pense que je vais en connaître davantage sur ce côté mystérieux de l'univers. Donc, j'ai décidé de faire la recherche, de continuer dans la recherche et de faire une thèse en astrophysique où j'ai travaillé sur la distribution de la matière noire dans les galaxies.
D'accord, très fascinant tout cela. Alors, Claude Porcella, disons un peu, si on peut le dire ainsi, Apollo 11... On a parlé de l'atterrissage, on a beaucoup parlé de l'atterrissage qui était spectaculaire, mais on a très peu parlé du retour sur la Terre, sur Terre.
Oui, ça a été un peu problématique parce que d'abord l'alunissage lui-même, il y avait eu une petite erreur de calcul et le LEM, le module lunaire, ne s'est pas posé exactement où il devait se poser parce que ce qui avait été prévu, le sol était trop rocheux pour que le véhicule se pose. Donc Neil Armstrong a dû improviser et il est arrivé à trouver une surface qui soit acceptable pour accepter le véhicule et donc ça a été le premier problème. Alors après il y a eu la sortie, mais au moment de redécoller, parce que évidemment il fallait s'assurer qu'il pouvait rejoindre le vaisseau de commandement Columbia où se trouvait Michael Collins, le pilote,
le seul qui n'est pas descendu.
Oui, et donc il fallait absolument pouvoir repartir. Et le LEM avait deux étages, un étage de descente et un étage de remontée. Et quand ils ont repris place Buzz Aldrin, il ne faut pas l'oublier, c'était le deuxième astronaute à avoir marché sur la Lune. Lorsque Aldrin et Armstrong se sont retrouvés dans leur cabine, donc dans cette deuxième partie du LEM, n'est-ce pas, qui était celui de la remontée vers Columbia, ils ont eu un problème. Il y avait un bouton qui s'est cassé. Mmh. Alors, et ce bouton était indispensable pour leur donner la propulsion nécessaire pour remonter vers Columbia. Et alors, Dieu merci, Buzz Aldrin avait c'est un stylo à billes. Et c'est grâce à ce stylo à billes, avec sa pointe, il a enfoncé la place où se trouvait le bouton cassé. Et Dieu merci, ils ont pu repartir et rejoindre Columbia.
D'accord. Docteur Ouattara, aujourd'hui, beaucoup de choses essentielles dans la vie de tous les jours dépendent de ces satellites lancés, d'ailleurs pour la plupart par des opérateurs privés aujourd'hui. Qu'est-ce qui a favorisé cette évolution depuis 1969 ?
D'abord, il faut dire que c'est la volonté politique. La volonté politique qui était caractérisée par l'exemple de Kennedy, donc la fierté nationale américaine, mais aussi, il faut dire qu'il y a des enjeux économiques et des enjeux géopolitiques. Les enjeux géopolitiques nous amènent directement au niveau de la sécurité. Donc cette guerre froide a permis le développement de plusieurs outils spatiaux pour la sauvegarde de la souveraineté, mais aussi pour la surveillance des différents territoires et des différents enjeux géostratégiques. Les enjeux économiques ont aussi poussé cela. Pourquoi ? Vous avez la télécommunication. Aujourd'hui, nous parlons grâce, je vous dirais, aux sciences spatiales. Donc la télédiffusion, la radio, la télévision, les mobiles, le téléphonie mobile. Donc les enjeux économiques existent. Mais il y a aussi les enjeux sociaux, je dirais, culturels. Notamment les enjeux sociaux, c'est la maîtrise de notre cadre environnemental. Là où nous vivons, les gens sont préoccupés à savoir quelles sont, un, les zones sécuritaires en termes de santé. Aujourd'hui, les sciences spatiales sont très appliquées en épidémiologie, en santé publique, en télémédecine, mais également au niveau économique, comme je l'ai dit.
D'accord.
La gestion et la maîtrise de nos ressources.
D'accord. Alors, docteur Korsaga, depuis Apollo 11, aucun humain n'est retourné sur la Lune. Est-ce qu'il y a un intérêt, franchement, aujourd'hui à aller sur la Lune ?
Je pense depuis Apollo 11, je pense que ça a poursuivi jusqu'à Apollo 17. C'est après ça qu'on n'a plus parlé de... On a mis fin aux missions Apollo, je pense. Je pense qu'il y a, eu...
Est-ce qu'il y a un intérêt aujourd'hui ?
Pardon ?
Est-ce qu'il y a un intérêt aujourd'hui à aller sur la Lune pour vous ?
Pour moi, je pense que oui, il y a toujours un intérêt à repartir sur la Lune. Parce qu'il y a des projets comme quoi il faut mettre une agence spatiale autour de la Lune, en orbite autour de la Lune. Et ça pourrait permettre aux astronautes de rester plus longtemps sur la Lune. Et donc, ça va permettre d'étudier la vie d'un astronaute en dehors de, je vais dire, de la planète Terre, dans un objet céleste comme la Lune.
Exact.
Et ça va, les résultats qu'on va avoir seront propices pour la conquête de Mars dans le futur.
D'accord. Alors, nos téléspectateurs ont été nombreux à réagir sur la page Facebook de VOA Afrique. Nous avons Jim Rangar, Tiardoum, Osana, N'Djamena au Tchad, qui demandent quelles ont été les conditions de vie de ces astronautes lors de ce voyage qui a duré 8 jours. Ce voyage n'a-t-il pas eu des conséquences sur la santé des astronautes ? C'est une question à laquelle on pourra répondre plus tard. Ange Diour Kalej à Kolwezi en RDC, lui, estime qu'en Afrique, on cherche d'abord à assouvir les besoins basiques, une question à laquelle également on pourra répondre. Et Principal Lely de Kinshasa nous dit: en 50 ans, il n'y a eu aucune autre mission lunaire alors que la technologie a évolué. C'est un montage, écrit-il. Voilà, donc beaucoup de réactions comme ça également sur notre page Facebook. Nos scientifiques pourront apporter des éclairages. On va essayer de revenir sur tout cela après une courte pause. Vous suivez Washington Forum sur la Voix de l'Amérique.
Internal 15. Ignition sequence start. Engines on. 5, 4, 3, 1. All engines running. Launch commit. Liftoff. We have liftoff. The tower is clear.
And we have a roll program. Roger.
Merci de rester fidèle à VOA Afrique, Washington Forum donc, qui revient et pour parler maintenant de l'aspect africain, disons, de tout cela. Nous allons tout de suite au Sénégal, en Afrique de l'Ouest, précisément à Saint-Louis, où notre envoyé spécial Isha a donc rencontré quelques personnes pour leur demander leur avis sur l'exploration spatiale ensuite.
La science ne nous intéresse pas trop, c'est ça. On n'a pas beaucoup de scientifiques, beaucoup de spécialistes pour l'espace, qui s'intéressent sur l'espace.
Mais est-ce que vous pensez que ça serait important pour le Sénégal d'investir dans ça ou pas?
Mais ils n'ont pas les moyens d'investir, c'est ça le problème. Mais c'est important pour tous les pays d'investir sur l'espace.
Il y a certaines choses, il faut avoir une limite. L'homme il doit avoir une limite pour moi. On a découvert, on a allé dans la Lune, on a vu beaucoup de choses, mais ça c'est les planètes de Dieu. Dieu nous a laissés ici, nous sommes ici, nous sommes bien ici, nous respirons, nous faisons tout, mais on doit respecter la nature. Pour moi c'est beaucoup important. Ah, pour moi, vraiment, ils vont m'excuser, mais il y a certaines choses là, ça ne vaut pas la peine. Parce qu'on a tout ce qu'il faut.
Bon, si ça peut servir, tu vois, le monde, si c'est dans du positif, pour aider, tu vois, pour faire développer le monde, tu vois, sortir les gens de la précarité, tu vois, trouver du travail, tu vois, découvrir de nouvelles choses importantes et sans conséquences pour l'humanité, je crois que c'est une très bonne chose.
Et ça vous inspire l'idée de marcher sur la Lune?
Ah, mais j'aimerais bien un jour faire comme Lance Armstrong, hein, tu vois, aller dans la Lune, découvrir un peu, tu vois, ce que c'est là-dedans, parce que tu vois, c'est pas quelque chose de donner à tout le monde, il n'y a que les riches qui font ça d'habitude, quoi.
C'est l'ère entre quoi de la science et que la science n'a pas de limite. C'est l'ère d'aller explorer les planètes habitables pour pallier la pollution aujourd'hui que connaît la planète Terre. Et aussi, c'est l'ère des nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Et que les superpuissances aujourd'hui font la course au niveau des autres planètes pour montrer leur hégémonie, leur maîtrise de l'espace planétaire.
Voilà, donc Isha, qui a donc rencontré quelques personnes à Saint-Louis au Sénégal. Je rappelle nos invités pour cette émission, Claude Porcella, ancien chef du service de la Voix de l'Amérique, service francophone. Nous avons également le docteur Tidiane Ouattara à Nairobi, expert en sciences spatiales et coordinateur du programme GEMESS à l'Union africaine. Et au Cap, en Afrique du Sud, Marie Korsagar, première astrophysicienne d'Afrique de l'Ouest et du Burkina Faso. Alors, je commence avec vous, docteur Ouattara. Disons, on a déjà vu des avis assez partagés hein, sur ce qu'on a vu tout à l'heure avec ces personnes que notre correspondante a rencontrées au Sénégal. Quelles sont les perspectives pour l'Afrique? Les avis sont très partagés, il y a des sceptiques, d'autres sont très optimistes, quelqu'un veut même aller à la Lune. Quelles sont les perspectives pour notre continent?
Je pense qu'il y a un devoir à faire, c'est un devoir d'information et d'éducation quant à ce qui concerne l'exploration spatiale. L'exploration spatiale a permis de faire le développement des sciences et technologies spatiales. Alors, j'ai entendu certains confrères africains parler de nos besoins primaires. Quels sont nos besoins primaires? Dans certaines contrées de l'Afrique, on a besoin d'eau. Donc, la disponibilité de l'eau. Savez-vous que les sciences spatiales permettent de réduire l'investissement dans la recherche des zones propices pour creuser des puits. Deuxièmement, dans certaines zones, les eaux sont polluées. Les sciences spatiales permettent d'analyser rapidement la qualité de l'eau sur une étendue plus vaste. Au niveau de l'agriculture, les sciences spatiales permettent de localiser les zones propices à certains types de cultures. Voyez-vous, les bancs de poissons, les sciences spatiales permettent facilement de localiser où se trouvent les poissons et même de surveiller nos côtes, l'environnement. Donc les applications sont diverses. Deuxièmement, la téléphonie. Aujourd'hui, en Afrique, il y a beaucoup de cellulaires et le nombre continue à augmenter. Mais ces cellulaires-là, c'est grâce aux sciences spatiales que ça s'est développé. Et le prix, quand vous allez dans certains pays, on vous dira que c'est élevé. Mais nous n'avons pas de satellites. Nous louons des satellites. C'est normal que le prix unitaire soit élevé. Donc, se mettre dans les sciences est une nécessité pour nous.
Docteur, malheureusement, on est un peu bousculé par le temps. Je vais quand même vous demander, l'Union africaine qui veut créer une station spatiale, parlez-nous-en un peu.
Il s'agit d'une agence spatiale africaine.
Une agence spatiale plutôt.
Voilà, qui a été créée statutairement et dont le pays qui doit abriter cette agence a été choisi, c'est l'Égypte. Et l'agence spatiale a deux enjeux politiques simples. C'est de mieux coordonner les activités spatiales en Afrique. Comme vous le savez, certains pays ont des agences spatiales en Afrique, telles que l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Algérie, l'Égypte, l'Éthiopie, le Ghana, etc. Deuxième point, c'est de créer un cadre réglementaire. Savez-vous que tout ce débat se passe sans l'Afrique sur les podiums internationaux? Il y a plus de 2000 satellites sur nos têtes, les enjeux légaux, les débris spatiaux, etc. Les partages de données, même entre les pays africains, ne sont pas aussi faciles. Donc, il faut créer un cadre réglementaire.
D'accord.
Au niveau de la stratégie, il faut créer une capacité africaine pour éviter cette dépendance qui, si nous ne prenons pas d'action maintenant, ne fera que s'accroître.
D'accord, merci beaucoup, docteur Ouattara. Docteur Kosaga, pourquoi l'Afrique devrait-elle investir dans l'astrophysique et même les sciences, toutes les sciences liées à l'espace?
Comme docteur Ouattara l'a dit, ça va permettre de développer la télécommunication, ça va aussi permettre de gérer les catastrophes naturelles, à savoir les inondations et la sécheresse. Donc il y a pas mal de domaines que la science spatiale pourrait aider à, aider à améliorer. Et aussi, je pense que ça va aussi permettre à l'Afrique d'être plus unie, parce que travailler ensemble, collaborer pour envoyer une agence spatiale dans l'espace, ça va permettre aux Africains, aux chercheurs, les chercheurs, les techniciens, les ingénieurs, d'être tous unis, de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et donc, cela va consolider l'Union africaine. Oui, ça va consolider l'Union africaine et donner une Afrique beaucoup plus accélérer le développement de l'Afrique et le rendre le continent beaucoup plus autonome, en fait.
En 15 secondes, une agence spatiale africaine, c'est la solution.
Mais absolument, pourquoi pas. Et ouais. J'aime le fait que votre invité souligne le côté unité, parce que c'était justement ce que j'avais ressenti au moment où Neil Armstrong avait posé le pied à lune, le sentiment de fraternité humaine. Et je pense qu'une agence africaine spatiale pourrait y contribuer.
Voilà, merci beaucoup. C'est la fin de cette édition de Washington Forum consacrée au 50e anniversaire de l'atterrissage d'Apollo 11 sur la Lune. Merci à nos invités, à vous tous qui avez suivi cette émission. Merci à toute l'équipe. Ici à Washington, c'était Abdourahmane Dian, votre compagnie. À la semaine prochaine.